Et donc, la science peut directement passer dans le champ théologique, puisque l'objet de la science et l'objet de la théologie, c'est la même chose. Alors, cette position, c'est une position qu'on retrouve chez énormément de grands scientifiques aujourd'hui. C'était la position d'Einstein. Einstein dit souvent, je suis le plus religieux des scientifiques. Il dit souvent ça. Quand il demande quelle est votre position par rapport à la religion, il dit, je suis le plus religieux des hommes. Alors, on lui demande, mais et alors vous croyez en Dieu? Oui, je crois au Dieu de Spinoza, disait Einstein. Autrement dit, je crois à un Dieu qui est assimilé à la totalité des choses existantes. Bon, évidemment, cette position est incompatible avec la théologie de la création, puisque dans la théologie de la création, une des caractéristiques de la théologie des grands monothéismes, d'ailleurs, ce n'est pas propre au christianisme, mais dans tous les grands monothéismes, Dieu n'est pas le monde. Autrement dit, les théologiens médiévaux disaient le monde est ad extra, et en dehors de Dieu, si vous voulez. Même si c'est Dieu qui pose le monde dans son être, le monde a une autonomie par rapport à Dieu. Donc, il n'y a pas un morceau de Dieu là-dedans. D'accord? Et si je fais ça, bien sûr c'est Dieu qui permet que je fasse ça, puisque c'est lui qui me porte dans mon être, mais si je fais ça, ce n'est pas nécessairement que Dieu l'a voulu. Je prends ce pot, et vous m'énervez tellement avec vos questions que je vous le balance sur la tête. Bon, alors... Le panthéisme dirait, ben là, ça c'est un moment de l'existence de Dieu. Bon, mais sûr que nous ne pouvons pas interpréter ça comme ça. Dieu n'est pas un morceau de la nature ou la nature en totalité. Il y a une autonomie de la nature. D'accord? On pourrait dire quelque chose de la liberté du monde chez nous joue énormément. Dans cette structure-là, il n'y a pas de liberté d'une certaine manière. Tout est déterminé. Dieu est une réalité infinie, très riche, etc., mais nous ne sommes que des parcelles à l'intérieur de Dieu, des morceaux de Dieu, si vous voulez. Bon. Ça, c'est contraire à la théologie de la création. Bon. Mais c'est souvent l'attitude religieuse que prennent certains grands scientifiques aujourd'hui. C'est le cas de Hawking. Vous savez, Hawking, cet astrophysicien qui est paralysé et qui est un des plus grands cosmologistes et physiciens encore vivant maintenant. Mais si vous allez voir sur le net, Hawking, ben vous voyez, il est complètement paralysé. Il n'y a plus qu'un doigt qui fonctionne et quelques muscles de son visage. Il a une maladie dégénérative des muscles. Il ne peut même plus parler. Il parle par un synthétiseur de voix. Et il écrit simplement en sélectionnant des groupes de mots. Et il rédige pas mal de bouquins. Donc c'est un des plus grands physiciens d'aujourd'hui. Il est à Cambridge. Et lui dit par exemple dans un livre qui a été un best-seller il y a quelques années, intitulé « Une brève histoire du temps », il dit « Lorsque la physique aura obtenu la théorie du tout », puisque l'idée des physiciens c'est de trouver une théorie générale qui décrive toute la nature, etc., tous les phénomènes, il dit « Lorsque les physiciens auront trouvé la théorie du tout, alors ils auront compris la pensée de Dieu ». Et Carl Sagan, qui a préfacé ce livre, dit « C'est un livre sur Dieu, dit Carl Sagan, ou bien plutôt, plus exactement, c'est un livre sur l'absence de Dieu. » Parce qu'en fait, à partir du moment où le physicien comprend la pensée de Dieu et la décrit avec ses équations, bien sûr, ce n'est plus Dieu. D'accord ? C'est transformer Dieu en un objet purement et simplement d'objet de la physique théorique. Oui ? Hawking dit « Lorsque les physiciens auront découvert la théorie du tout, alors ils auront compris la pensée de Dieu. » On pourrait dire même, ils seront entrés dans la pensée de Dieu et l'auront entièrement comprise avec des équations. Et alors, finalement, Dieu n'est plus Dieu. On n'en a plus besoin. C'est ce que dit Carl Sagan. C'est un livre sur l'absence de Dieu. Et c'est ce que Hawking dit, à partir du moment où la physique théorique peut expliquer tout à fait le monde, à la limite, on pourrait se passer de Dieu. Bon, ça c'est le risque du concordisme. À partir du moment où vous avez trop rapproché science et théologie, même identifié, alors à la limite, vous n'avez même plus besoin de la théologie, la science suffit. C'est la position aussi, c'est la position de Hawking en physique, aujourd'hui, c'est la position développée par De Duve, prix Nobel de médecine dans les années... on peut dire 70 ici, hein? Non?
Oui.
Okay. C'est autorisé. On, 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 on n'est pas jeté dehors en disant. Bon, disons, en 74, De Duve a eu son prix Nobel pour la découverte des lysosomes, ces petits organites dans la cellule. Et De Duve a écrit beaucoup de livres sur ces découvertes, très beaux livres d'ailleurs. Mais seulement, De Duve développe une idée que, dans le fond, pour comprendre ce qui est beau, ce qui est bien, l'art, l'amitié, l'amour, pour maintenir une éthique, il faudrait maintenir une dimension spirituelle au travail scientifique, etc. Et De Duve dit, la nature en totalité, c'est l'ultime réalité. Et dans le fond, c'est comme, à la limite, il dit, c'est Dieu. D'accord ? Donc le monde en totalité serait Dieu. Alors chez les scientifiques, souvent, il y a les grands scientifiques, il y a une espèce de volonté de maintenir à la fois une profondeur, parce que ce sont des gens qui sont attentifs aux droits de l'homme, qui aiment l'art, etc. Mais comment maintenir à la fois une dimension de profondeur et à la fois la dimension réductrice de la science? Eh bien, ils mettent les deux ensemble et ils disent ben, la totalité a une profondeur et Dieu c'est la nature et la nature c'est Dieu. Bon, lui il n'appelle pas ça vraiment Dieu, il appelle ça l'ultime réalité, mais c'est quasiment la position spinoziste. Bon, alors, au niveau épistémologique, c'est-à-dire au niveau des discours et de la connaissance, cette position revient à dire, vous voyez, ici c'est l'objet de la théologie est identifié à l'objet de la science, ici on pourrait dire le discours sur Dieu s'identifie au discours sur le monde. Ça veut dire ici, la théologie est identifiée à la science. Il y aurait donc une théologie purement naturelle. Alors cette idée-là, c'est une idée qu'on trouve en partie aussi au XIXe siècle. Alors, au XIXe siècle, alors que nous sommes dans une période de positivisme très fort, le XIXe siècle, en France, par exemple, c'est le règne, par exemple, de quelqu'un comme Berthelot ou d'Auguste Comte, une série de penseurs qui, dans le fond, disent « la métaphysique et la religion, ça, c'est les signes d'une faiblesse de l'esprit, en fait ». Hein, les gens ont d'abord cru à des espèces de mythologies religieuses, hein, ça c'est un âge religieux, puis après ça, ils sont devenus un peu plus intelligents à la Renaissance, etc., et ils ont évacué les mythes religieux, mais ils ont construit des systèmes philosophiques, ça c'est l'âge de la métaphysique, et puis après ils sont devenus encore plus intelligents, et ils ont compris que non seulement les mythologies stupides des religions, il fallait les balancer, mais il fallait aussi balancer tous ces systèmes métaphysiques sans aucun contenu, et enfin la science arrive comme une sorte de nouvelle religion. Et c'est pas pour rien qu'Auguste Comte écrit un catéchisme positiviste. D'accord ? Bon. Alors, dans cette période-là, apparaissent une série de réactions en disant, oui mais enfin c'est pas si vrai que ça, que les religions, la théologie, etc., sont des choses qui ne sont pas rationnellement compréhensibles. Il y a des choses qui pourraient être comprises rationnellement. Et se développe une tendance d'une théologie naturelle. Oui.
Mais je ne comprends pas la différence entre le concordisme au niveau de l'exégèse et le concordisme au niveau épistémologique.
On pourrait dire, ça peut être considéré comme un cas particulier. Je l'ai mis comme ceci parce que, historiquement, cette dénomination arrive dans le cadre de l'exégèse. Mais c'est vrai, on pourrait dire, ceci peut être vu comme un cas particulier de ça. Mais je l'ai distingué parce que ça joue un rôle historique important. Mais c'est vrai, on pourrait dire, ou bien on pourrait dire ici, c'est la théologie fondamentale. Mais c'est vrai, c'est tout à fait juste. Donc ça, c'est un cas particulier de ça. Mais je l'ai distingué pour des raisons historiques et peut-être pédagogiques. Alors, ici, l'idée est, oui, mais pour sauver la théologie face à la science, il faudrait montrer que la théologie est aussi scientifique que la science. Et à la fin du XIXe siècle, un certain nombre de théologiens, pas nécessairement dans la sphère catholique, mais par exemple dans l'anglicanisme, vous avez un théologien célèbre, William Paley, qui écrira un livre intitulé « Natural Theology », qui entend montrer que la théologie est aussi sérieuse que les sciences, et qu'à partir des sciences, on peut tirer des informations théologiques fiables. Et dans ce livre, par exemple, il dit, regardez la nature, On voit des choses très complexes dans le vivant, etc. Et donc, nécessairement, si c'est complexe, la science ne peut pas l'expliquer, donc il doit y avoir un créateur qui a créé tout ça, etc. Et il fait une démonstration à partir des données scientifiques de la biologie de l'existence d'un créateur. Donc, un peu comme si la science directement permettait d'arriver à l'existence d'un créateur. Regardez ce qui se passe en biologie, regardez la complexité des phénomènes, bouf, et vous en tirez par un raisonnement un peu compliqué l'existence d'un créateur. Oui. La théologie naturelle, ce serait l'idée au sens du 19e siècle. Hein. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. La théologie naturelle serait de dire, à partir d'une observation des phénomènes de la nature, on peut en déduire à peu près toutes les vérités théologiques. D'accord ? Bon, alors nous, on ne peut pas admettre ça. On peut admettre que, d'après ce que je disais tout à l'heure, il y a des bases empiriques à une réflexion théologique. Donc on peut, comme préliminaire à une réflexion sur Dieu, se fonder sur une observation de la nature, des phénomènes, etc. Mais l'existence de la Trinité, par exemple, ne peut pas être déduite de l'observation des phénomènes de la nature. D'accord ? Il y a des... Si la révélation a un sens et s'enracine dans un certain nombre de choses que je peux expérimenter, etc., on peut arriver à l'idée de Dieu sans la révélation, dit le Concile Vatican. Hein. Donc on peut arriver à l'idée de Dieu simplement en réfléchissant à l'origine des phénomènes, etc. Mais du Dieu des philosophes, mais du Dieu de Jésus-Christ ou du Dieu Trinité, ça, la nature ne peut pas nous la donner par un raisonnement purement rationnel. D'accord ? Mais la théologie naturelle de l'époque, voulant dire « la théologie est très sérieuse, elle fonctionne comme une science, etc., vous ne pouvez pas la critiquer », avait cette tendance à dire « on va dériver le contenu théologique du christianisme, en particulier dans ce cas-là de l'anglicanisme, des sciences de la nature ».